Avec cette lourde semaine sociale dont effectivement les grèves à la SNCF jeudi et vendredi et à Air France également, le 1er mai qui a été violent, un anniversaire, celui du déclenchement de mai 68 sur fond de conflit dans les universités, une mobilisation des enseignants jeudi et aujourd'hui à deux jours du premier anniversaire de son élection, une fête à Macron organisée par la France Insoumise pour clamer son opposition. Nous accueillons ce matin Benjamin Amar, bonjour.
Bonjour.
Militant syndical, responsable CGT du Val-de-Marne et professeur d'histoire-géographie au lycée Gutenberg de Créteil. Cette semaine que je qualifiais de lourde socialement, est-ce que vous diriez qu'à la CGT, vous en êtes plutôt satisfait ou pas du tout? Est-ce que vous avez plutôt avancé, plutôt régressé, du point de vue notamment de cette convergence des luttes qu'à la CGT vous appelez de vos voeux?
Alors c'est une semaine, vous l'avez dit, hein, c'est une semaine qui a été émaillée par plusieurs journées de mobilisation, par aussi des actions assez diverses, hein, comme le résultat du référendum d'hier, et on en est très satisfait. Alors vous savez, la CGT a coutume de dire que voilà les luttes, la convergence, les mouvements de grève massifs, un mouvement d'ampleur inédite qui marquerait l'histoire sociale de notre pays, ce sont des choses qui se construisent, pas quelque chose qui se décrète comme ça dans claquement de doigts. Donc là, en l'occurrence, on a eu une semaine très intéressante. On a eu un 1er mai qui était très offensif, 55 000 manifestants à Paris. Alors, bien sûr, ça a été un petit peu masqué par cette incapacité des pouvoirs publics à nous laisser manifester tranquillement.
Incapacité des pouvoirs publics ou incapacité, un, des casseurs, deux, des forces de l'ordre de la CGT?
Alors attendez, le service d'ordre de la CGT, vous savez, c'est un service d'ordre, il a une mission très précise. La mission d'un service d'ordre. Non, mais oui, mais faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire protéger le cortège et empêcher que des éléments extérieurs rentrent dans le cortège. Moi, j'ai déjà participé plusieurs fois au service d'ordre à plusieurs reprises. On n'est pas une milice ouvrière, on n'est pas des auxiliaires ou des supplétifs des forces de police. Donc, la question des interpellations et du maintien de la sécurité, ça, c'est le gouvernement, ça, c'est la préfecture de police de Paris. Tout à l'heure, j'ai dit incapacité, parce qu'il y a deux options. Soit c'est de l'incompétence notoire, parce que je vous rappelle que le préfet de police de Paris a expliqué dans sa prise de parole que, en l'occurrence, il avait des informations depuis plusieurs jours. Il avait même donné le chiffre, d'ailleurs, du nombre de Black Blocs. Effectivement, il y avait eu des réunions. On savait que ça allait, qu'il allait avoir des fauteurs de troubles très importants. Donc, il savait. Et donc, ça s'est très mal passé.
Vous ne le saviez pas, la CGT?
Bien sûr que nous, on a eu des réunions. On nous a demandé d'étoffer notre service d'ordre. Ce que nous avons fait. Mais je vous l'ai dit, oui. Notre mission à nous est de faire en sorte qu'il ne rentre pas dans le cortège. Voilà. Donc, en l'occurrence, maintenant, il y avait deux options. Soit, effectivement, c'est de l'incapacité notoire. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Autrement, il y a la stratégie de l'attention qui a déjà été utilisée par le passé. Vous savez, quand on fait en sorte que des manifestations se passent mal, eh bien, d'abord, ça fait peur aux gens qui disent « Mais si je vais à la manif, ben, il va y avoir des violences, j'ai pas envie d'y aller, etc. » Et puis, c'est aussi l'étape juste avant l'interdiction. Souvenez-vous de Manuel Valls à l'été 2016, qui avait effectivement, au bout d'un moment, dit « il avait proposé l'interdiction de la manifestation. » Donc ça, c'est très dangereux. Mais je voudrais, moi, insister sur
ce que vous pensez, Benjamin Amar. Bon, ce serait une stratégie de l'attention. Essayons de ne pas tomber dans la théorie du complot, puisque pour l'instant, rien ne l'émaille. Mais c'est votre avis, bien entendu, et c'est l'avis aussi, effectivement, de votre syndicat à la CGT. Revenons sur les revendications du 1er mai dont vous parliez. C'est-à-dire, justement, ces violences, qui sont importantes quand même, et qui ont quand même fait dégénérer la manifestation, ont masqué les revendications du 1er mai et cette fête, parce que normalement, c'est une fête, le 1er mai, c'est la fête internationale du travail. Pourquoi, malgré tout, pas d'unité syndicale, malgré le contexte social, malgré les demandes de la CGT? Est-ce que c'est un manque d'unité? Est-ce que c'est une désunion? Est-ce que c'est une stratégie volontaire de la CGT ou est-ce que c'est une erreur?
Alors d'abord, première chose, le 1er mai, c'est la fête internationale des droits des travailleurs. La fête du travail, c'est Pétain. Important, ça. Donc, cette journée des droits des travailleurs, cette journée internationale des droits des travailleurs, elle est... ça peut pas être la stratégie de la CGT qui est en cause. Je vous rappelle que la CGT a appelé ouvertement, dans une position de main tendue et de rassemblement, tous les syndicats ont manifesté.
Donc
ensemble.
C'est un échec, pas, à ce moment-là.
Si
pas
vous
une
voulez,
stratégie.
Ça c'est votre. Mais attendez, soit c'est la stratégie de la CGT qui est en problème. Moi, vous me dites, est-ce que c'est la CGT qui est en cause? Je vous explique que c'est la CGT qui a la main tendue. Vous me dites que c'est un échec. C'est pas un échec. La CGT, elle est bien évidemment. Elle est ouverte au rassemblement, elle le souhaite, elle le demande. Maintenant, s'il y a derrière des syndicats comme la CFDT qui disent non, ben écoutez, il faut leur demander pourquoi, on a une petite idée. Mais en attendant, il y avait avec nous le 1er mai solidaire, la FSU et toute force ouvrière, enfin les structures de force ouvrière au niveau régional. Voilà. Donc c'était un très beau cortège. Maintenant, il semblerait, si vous voulez, le paradoxe il est où? Le paradoxe il est que dans certaines luttes, comme chez les cheminots, ou chez les fonctionnaires, avec le grand mouvement, la grande journée du 22 mai, eh bien, on arrive à voir peut-être pas une unanimité, mais enfin, quand même, si, dans la fonction publique, et même chez les cheminots, c'est une unanimité syndicale, avec une intersyndicale très large, dans les secteurs en lutte. Par contre, au niveau national, on se rend compte que, par exemple, Monsieur Berger a une attitude, lui, qui refuse
de
cette
la CFDT.
Main tendue. Voilà, qui refuse, effectivement, cette main tendue.
Il considère, Laurent Berger, que la convergence des luttes, ça n'est pas sa tasse de thé.
Oui, il considère aussi, par exemple, que le mouvement chez Air France, il fallait effectivement, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une veste pour le PDG d'Air France, enfin, pour Monsieur Berger, c'est aussi une situation un peu délicate. Je rappelle que la semaine dernière, il avait traité l'intersyndicale, et notamment le syndicat des pilotes, de preneurs d'otages, ce qui est quand même très grave dans la bouche d'un dirigeant syndical, et il avait appelé à voter oui. Donc, si vous voulez, là, il y a aussi un désaveu des salariés, hein, en l'occurrence, sur cette position-là. Donc, ce que je dirais, c'est que la CGT, aujourd'hui, pour parler de mon syndicat, parce que c'est quand même le syndicat dont je suis effectivement militant, ce syndicat, il porte aujourd'hui une vision qui consiste à dire Emmanuel Macron, il a effectivement une politique qui consiste à relayer et déployer l'agenda du MEDEF. Et ça, effectivement, c'est une attaque frontale contre les droits des travailleurs en France. Tout à l'heure, votre collègue signalait que 72% aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques une dizaine de jours, c'était 62-63%. 72% des sondés estiment qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Ce qui signifie que la CGT a raison de porter le fer contre cette politique-là, tout en avançant des propositions. La CGT, elle a des propositions sur tous les sujets. Elle en avait 15 pages au moment des ordonnances travail. Elle en a proposé 70 sur le conflit des cheminots. Et ce sont effectivement des propositions qui ne considèrent pas l'emploi comme une variable d'ajustement, mais qui consistent effectivement à estimer une chose simple. Vous avez peut-être entendu qu'en 2017, les entreprises du CAC 40 ont fait 95 milliards de bénéfices. Eh bien, la CGT dit, cette richesse incroyable que produisent les salariés, elle doit être redistribuée. Voilà, on défend les droits, on les démantèle pas.
Oui, mais Benjamin Amar, on va pas rentrer dans une bataille de chiffres, surtout que les batailles de chiffres ne nous font absolument pas avancer.
Ah, mais il est contesté par personne, ce chiffre. Hein.
Que ce soit les chiffres de participation à la grève, que ce soit...
Ah, mais les chiffres des 95 milliards, ils ne sont contestés par personne.
Non, pas ceux-là, les chiffres de popularité d'Emmanuel Macron. On va pas rentrer dans cette bataille de chiffres, s'il vous plaît.
C'est mais votre collègue
vous
qui l'a donné.
Vous disiez par rapport à la stratégie et surtout au positionnement de Laurent Berger de la CFDT que vous n'étiez pas nécessairement d'accord avec sa façon d'agir et sa façon de penser les choses. Il dit quand même, Laurent Berger, qu'il y a aujourd'hui une négation des corps intermédiaires en France. Est-ce que là-dessus, vous, personnellement, Benjamin Amar, et vous, à la CGT, rejoindrez Laurent Berger malgré tout?
Non mais en l'occurrence, on cherche pas à se positionner en fonction de Laurent Berger. On cherche
à
se positionner.
Pour le coup, c'est vous qui l'avez fait tout à l'heure.
Mais pas du tout. J'ai pas du tout. Je me suis pas positionné en fonction de Laurent Berger. J'ai pointé le positionnement
vos
de Laurent Berger. Voilà.
Divergences.
J'ai quand même le droit. Mais en l'occurrence, la CGT, elle se définit pas par rapport à ce que dit la CFDT. Elle se définit par rapport au réel. Voilà. Et le réel, c'est quoi? C'est effectivement un président de la République qui n'entend aucun syndicat. C'est-à-dire que par exemple Nicolas Sarkozy ou François Hollande notamment avaient essayé de donner les bons points et des mauvais points à certaines organisations syndicales. Voilà. Et Manuel Valls notamment avait poussé cette logique très très loin. Là en l'occurrence Emmanuel Macron il essaye même pas de faire ça. C'est-à-dire qu'il essaye même pas de dire j'ai un interlocuteur privilégié et il tourne effectivement le dos à toutes les organisations syndicales. Voilà. Il essaye même pas de dire je vais accorder quelques miettes ou je vais faire semblant d'accorder quelques miettes à certaines organisations syndicales pour faire croire, pour les laisser croire qu'elles ont gagné quelque chose. J'avance dans un autoritarisme complet et effectivement je n'écoute personne. C'était le cas au moment des ordonnances, c'est à nouveau le cas sur le mouvement des cheminots. C'est-à-dire que le gouvernement, il a une logique. Il organise des négociations qui sont pas des négociations, qui sont un simulacre de négociations, dans lequel en réalité il laisse parler les syndicats sans les écouter, sans retenir la moindre proposition, quelle qu'elle soit. Donc bien évidemment qu'il y a de ce point de vue-là une totale surdité vis-à-vis de ce que les organisations syndicales peuvent dire.
Ce que le gouvernement Benjamin Hamar peut vous renvoyer, vous, en permanence à la CGT, ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau dans l'histoire de la CGT, puisque certains disent que c'est une posture de la CGT, posture de l'opposition, posture de la radicalité, stratégie de la tension également, surdité, blocage aujourd'hui, et que ça ne favorise pas le dialogue, Benjamin Hamar.
Non mais écoutez, je suis certain qu'ils disent ça, oui, les libéraux disent ça, oui, effectivement, nos ennemis de classe disent ça, oui, d'accord. Mais alors, si vous voulez, ça, en l'occurrence, on en a cure. Derrière, la CGT serait uniquement en force de contestation, toujours dans l'obstruction systématique, mais on a des propositions, je vous en ai cité des exemples très précis. Sur, par exemple, le mouvement actuel sur les cheminots, il y a effectivement 70 pages de propositions. La CGT, elle a participé à des négociations, je vous dire la CGT, elle ne croit pas à la négociation sans rapport de force. La négociation à froid, ça ne marche pas. Voilà, ça se transforme à la fois systématiquement à la fin par des régressions pour les salariés. Elle croit à la négociation, mais à la négociation avec le rapport de force. La CGT, elle veut bien croire au compromis, jamais à la compromission. En l'occurrence, vous savez, mon organisation syndicale, elle signe plus de 80% des accords dans les entreprises. Lorsqu'elle estime qu'il y a plus d'avancées, qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients pour les salariés. Mais là, en l'occurrence, et on a toujours fonctionné comme ça, en l'occurrence, sur les cheminots ou sur les ordonnances, il n'y a eu aucun dialogue avec le gouvernement permettant effectivement de dire bon ben on a dégagé plus de choses intéressantes pour les salariés que de choses qui soient problématiques. Après, c'est vrai, vous avez raison, mon organisation syndicale, elle est fidèle à ses principes, ça n'est pas une girouette. Effectivement, elle ne considère pas effectivement que justement cette petite musique, on serait dans le nouveau monde. Mais quel nouveau monde, madame? Le capitalisme a-t-il changé? Les inégalités sont-elles en train de diminuer? Non, elles explosent. L'année dernière, il y a quelques mois, l'ONG Oxfam a pointé qu'à l'échelle mondiale, 1% de la population mondiale accaparait 82% des richesses produites. C'est le monde dans lequel nous vivons. La CGT, elle continue à exiger effectivement de la justice sociale et de la redistribution des richesses. Elle a bien raison.
Benjamin Hamar, vous parlez de surdité du côté du gouvernement. Les arguments selon lesquels la grève des cheminots a déjà coûté près de 250 millions d'euros à la SNCF, dixit le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. L'argument selon lequel le mouvement compromet l'activité de plusieurs secteurs de l'industrie, dixit la ministre des Transports, Elisabeth Borne, comme la sidérurgie, elle cite l'agroalimentaire, elle cite les matériaux, elle dit que la grève fait courir le risque de voir de nombreux acteurs se détourner durablement du fret ferroviaire. Ces arguments-là vous laissent-ils de marbre?
Alors, c'est pas qu'ils me laissent de marbre, c'est que franchement, ils me laissent goguenard. C'est assez formidable, là, en l'occurrence, je crois que c'est monsieur Macron qui avait utilisé l'expression pyromane indigné. On en a là, des pyromanes indignés. Voilà un gouvernement qui nous met, en plus de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence, le statut des cheminots au pilori, alors que tout le monde sait que le statut des cheminots n'a rien à voir avec la dette. Ils viennent ici, pourquoi est-ce qu'ils demandent le statut des cheminots? Je vais vous le dire. Parce qu'ils veulent une prise totémique. Ça, pour les libéraux, le statut des cheminots, c'est un totem de guerre. Depuis 1995, ils souhaitent tous dire, voilà, nous on a réussi là où Monsieur Juppé a échoué. Voilà un gouvernement qui est dans la provocation, qui vient, je rappelle que la réforme du statut des cheminots n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, qui nous balance ça à la face et qui s'attend ensuite qu'il y ait des réactions. Eh bien, effectivement, ça va coûter des centaines de millions d'euros, la faute à Madame Borne et à son gouvernement.
Benjamin Hamar, lundi quand même, le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir l'ensemble des syndicats, la SNCF et leurs responsables confédéraux à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion?
Alors, d'abord, il faut rappeler que quand nous avions claqué la porte, estimant que Madame Borne n'avait pas la main sur ce dossier, on nous avait dit, mais écoutez, il n'y aura pas d'autre interlocuteur. Et Monsieur Philippe, avec des coups de menton, nous avait dit, non, je ne recevrai personne. Finalement, il nous reçoit. Déjà intéressant. Donc, écoutez...
Vous voyez que ce n'est pas complètement la surdité.
À la bonne heure. Sauf que ce que nous ne souhaitons pas, c'est que nous nous retrouvions dans la même situation que cet automne, où il y avait eu, là aussi, des discussions, une quarantaine de réunions, je crois, mais en réalité, une attitude du gouvernement où il n'y avait aucun grain à moudre, que dalle. Contrairement à ce qu'avait dit, effectivement, la ministre. Donc là, en l'occurrence, on va voir ce qu'il va nous dire. On va s'y rendre. on va voir ce qu'il va nous dire. Nous, derrière, on est bien évidemment sur nos points revendicatifs, c'est-à-dire que la fin du statut des cheminots, l'ouverture à la concurrence, la reprise de la dette, autant de sujets qui nous sont extrêmement chers. On va voir ce que le gouvernement va nous dire. Si le gouvernement a bougé, très bien. Si le gouvernement ne bouge pas, eh bien nous, on continuera la mobilisation.
Et vous n'êtes pas responsable de la politique revendicative de la CGT du Val-de-Marne pour rien. À tout de suite, Benjamin Hamard, il est 8h30.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et c'est l'heure de retrouver la revue de la semaine par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On commence avec la Nouvelle-Calédonie où se trouve en ce moment même le président. Mais c'est surtout aujourd'hui un anniversaire tragique qu'on commémore.
Et le journal Le Monde consacre dans son édition d'aujourd'hui deux pleines pages à la Nouvelle-Calédonie et aux résonances 30 ans après des événements d'Ouvéa. Pour rappel donc l'assaut par l'armée et la gendarmerie de la grotte de Gossana ce 5 mai 1988. 19 indépendantistes et 2 militaires y trouvèrent la mort. Et le journal nous raconte le long chemin de la réconciliation entrepris par les familles. En 98 notamment, une première rencontre est organisée entre les gendarmes et les habitants de l'île, un processus qui va durer plusieurs années, entre libération de la parole et cérémonie du pardon selon la coutume locale. Mediapart nous propose aussi un reportage à Ouvéa et nous raconte une autre cérémonie, celle de la reconstitution, chaque année de l'assaut de la grotte par des enfants. Une sorte de théâtre mémoriel. Le premier a eu lieu en 89 et certains de ses enfants avaient perdu leur père dans la grotte. « Nous ne créons pas de violence », témoigne un habitant. « Nous ne faisons que transmettre la vérité. C'est un moyen pour nous d'évacuer le traumatisme. Mais cette façon de transmettre l'histoire ne fait pas consensus à Ouvéa. J'ai peur que les jeunes puissent mal interpréter l'histoire », témoigne une maman. « J'ai peur qu'on crée du ressentiment ». Alors les jeunes, quant à eux, raconte Mediapart, ils se tiennent plutôt à l'écart des commémorations. On en a assez du passé et du traumatisme, disent-ils. On aimerait bien passer à autre chose.
Dans la presse cette semaine, pour passer aussi à autre chose, vous avez relevé les confessions d'un homme qui a renoncé à peser sur le destin du monde.
Et cet homme, c'est Régis Debray qui s'est confié à l'Express cette semaine à l'occasion de la parution de son dernier livre, Bilan de faillite chez Gallimard. Réflexion d'un homme désabusé, certes, mais qui n'a rien perdu de son acuité mordante et de son sens de la formule. Régis Debray se présente comme le témoin d'un changement de civilisation, le passage, je cite, de la France République à la France entreprise, d'une nation tribunicienne et méditerranéenne à une province transatlantique et semi-anglophone. Ce n'est pas un jugement de valeur, explique-t-il, c'est le constat d'une inaptitude personnelle à se rendre utile dans ce nouveau monde. Et dans ce livre, qui est une adresse à son fils de 16 ans, il lui recommande de s'éloigner de la politique comme de l'idéologie, à ne pas suivre son chemin en somme. Et pourtant, sur la politique, la laïcité, l'Europe, la République, Régis Debray a encore des choses à dire. Un regard sans concession sur le monde et sur lui-même qui fait réfléchir.
Lui n'avait jamais renoncé à peser sur le destin du monde et sa pensée continue de nous hanter.
Il s'agit de Karl Marx. Alors Karl Marx peut-il nous aider à comprendre notre époque? C'est l'une des questions posées par Alternatives économiques dans un petit trimestriel publié à part. Ça s'appelle Marx l'incontournable. Une centaine de pages que je vous conseille si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur les notions de baisse tendancielle du taux de profit ou de matérialisme historique. Et il y a surtout cette question de la postérité de Karl Marx, déclaré plusieurs fois mort et toujours ressuscité, peut-on lire en préambule. Théoricien des crises financières, penseur de l'inégalité des échanges dans la mondialisation et précurseur peut-être de l'écologie, puisque Marx théorise un capitalisme voué à épuiser toutes les ressources. C'est ce que nous explique notamment l'économiste Michel Husson dans l'une des contributions. On trouve aussi dans ce dossier des analyses plus circonspectes. Jean-Marc Daniel, économiste libéral, par exemple, rappelle que le capitalisme ne meurt pas de ses crises, comme l'avait prédit Marx. Au contraire, il en profite pour se régénérer. Et l'AFP propose aussi une synthèse intéressante de ce débat sur l'utilité de Marx au XXIe siècle. On peut y lire Thomas Piketty, pour qui sa réflexion a surtout un intérêt historique. L'erreur, c'est de l'avoir considéré à un moment comme un prophète et sa théorie comme un modèle, explique-t-il. Pour Yanis Varoufakis, l'ancien premier ministre grec, au contraire, qui lit Marx, sera surpris de découvrir l'image d'un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Et pour terminer, on peut lire encore dans Le Point un entretien avec le philosophe Étienne Balibar, qui se dit surpris de voir à quel point Marx irrigue la pensée post-coloniale sur les interférences de la race, de la classe et de la culture, mais aussi sur tout ce que l'on peut appeler le planétaire aujourd'hui, un autre nom peut-être de l'internationalisme.
Merci Mélanie Chalandon, Benjamin Hamard. Marx irrigue-t-il votre votre pensée, Éric Thiel, la pensée aujourd'hui encore de la CGT?
Ah, mais Marx est un, effectivement, comme vous l'avez dit, dans le titre d'Alternative Éco, complètement incontournable. La CGT se revendique d'un syndicalisme de classe et de masse. Et la notion de lutte de classe, ça n'est pas un concept, c'est le réel. Vous savez, il y a un multimilliardaire américain parmi les plus grandes fortunes au monde qui s'appelle Warren Buffett qui a dit il y a quelques années, la lutte de classe existe et c'est la mienne, celle des riches, qui est en train de la gagner. Donc ça a au moins la vertu de la franchise et non pas la sinuosité de certains libéraux qui nous raconteraient que ce serait un mythe pour enfants. La lutte de classe, on l'observe tous les jours. Là, on voyait chez PSA Monsieur Tavares qui a augmenté sa rémunération de 40%. Plus de 40% entre 2016 et 2018, alors qu'il propose aux ouvriers une augmentation de 1,5%. Donc cette lutte de classe que Marx analyse, effectivement, elle est centrale et bien évidemment que l'héritage du marxisme nous irrigue, bien évidemment. Moi, je me considère comme marxiste, bien évidemment.
Benjamin Amar, aujourd'hui, non seulement on fête le bicentenaire de Karl Marx, mais c'est aussi la fête à Macron organisée par la France Insoumise. Vous en avez parlé tout à l'heure dans le journal de Camille Magnard. Vous avez expliqué pourquoi vous n'irez pas cet après-midi à Paris à cette fête à Macron. Malgré tout, ce que j'aimerais vous demander par rapport à ce que vous faites, vous, à la CGT, c'est si vos objectifs, vous les considérez encore comme sociaux ou si vous les considérez tous comme politiques. Et pourquoi je pose cette question en termes de distinction entre le social et le politique? C'est parce que dans vos arguments, on entend la convergence des luttes. Tout à l'heure, on entendait Philippe Martinez dire « ce n'est pas la convergence, mais c'est la concurrence ». On voit bien le positionnement à l'écart des partis politiques qui vient nécessairement de la charte d'Amiens de 1906, qui définissait le rôle des syndicats à l'écart et indépendant de tout parti politique. Malgré tout, dans les revendications et dans la méthode, dans la stratégie aujourd'hui de la CGT, c'est une question qui revient sans cesse. Quelle est votre réponse? Objectif social, objectif politique.
Mais vous évoquez la charte d'Amiens, il faut effectivement y revenir. La charte d'Amiens, elle parle de l'indépendance par rapport aux partis politiques, pas par rapport à la politique. Le syndicalisme de classe et de masse s'intéresse à quoi? Il s'intéresse aux questions économiques et sociales. Mais ça, c'est clairement politique. Quand vous interrogez effectivement des responsables politiques, ils vous parlent de, également, pas que de ça, mais de choses qui sont strictement économiques et sociales. Donc ça, effectivement, ce sont des questions qui relèvent de certains pans de la politique. Pour autant, effectivement, nous sommes bien, nous, intéressés à cette question sociale et économique et nous ne visons pas le pouvoir politique. Nous ne visons pas, des échéances électorales politiques. Et nous avons bien conscience, en revanche, qu'à un moment, il faut bien que nos propositions soient relayées par des organisations politiques. Pour autant, nous sommes clairement dans notre champ, nous n'en débordons jamais, mais effectivement, lorsqu'on exige, si vous prenez là aussi sur les ordonnances, par exemple, ce que nous mettions en avant, c'était effectivement un renforcement du code du travail. On était complètement dans notre rôle de syndicaliste. Lorsque, par exemple, sur la SNCF, on ne se contente pas d'être dans une position d'opposition, mais on dit la question de la dette, il y a une manière de la gérer, c'est cette fameuse structure de défaisance que nous avons présentée au gouvernement et qui n'a rien de... que les gouvernements ont déjà utilisé, par exemple, pour le Crédit Lyonnais. Nous sommes dans notre rôle de syndicaliste. Mais c'est un argument qu'on nous rétorque souvent. Mais est-ce que vous êtes un syndicat ou un parti? On est bien évidemment un syndicat et on fait ce qu'on a toujours fait. On défend, encore une fois, les droits économiques et sociaux des travailleurs.
Il y a une question, Benjamin Amar, qui se pose peut-être aujourd'hui de façon plus accrue qu'il y a 100 ans, au moment de la charte d'Amiens ou au moment de la naissance de Karl Marx. C'est la question de la représentativité et du taux de syndicalisation. Il se trouve que, d'après le chiffre le plus récent qui date de 2013, le taux de syndicalisation en France serait de 11% quand la moyenne de l'Union européenne est de 23%. À la SNCF, le taux de syndicalisation pour la CGT est de 20%. Alors c'est le premier syndicat, la CGT c'est le premier syndicat des cheminots, mais le taux de syndicalisation global est très bas. Est-ce que malgré tout, quand on a une aussi faible représentativité, on ne mène pas un combat d'arrière-garde, non pas dans les objectifs, mais dans les méthodes? Benjamin Amar.
Alors d'abord, je vois pas pourquoi. Je vois pas le lien entre le chiffre de représentativité et effectivement les méthodes. Mais passons. Je vais d'abord répondre.
Certains vous disent que vous êtes une minorité et que vous faites une minorité de blocage.
Ah d'accord. Pour le dire clairement. D'abord, il y a aucun syndicat au monde qui a agi effectivement en ayant une. D'abord, première chose. Je vais revenir là-dessus. Mais d'abord sur le chiffre en Europe.
Sur le taux de syndicalisation.
Sur le taux de syndicalisation. On peut pas donner ce chiffre-là sans explication. On peut pas donner ce chiffre sans rappeler qu'il y a des pays en Europe où, si vous voulez bénéficier des conventions collectives, collective, il faut être syndiqué. C'est ce qu'on appelle le système de gants. Il existe par exemple en Belgique ou dans les pays scandinaves. Si vous voulez bénéficier d'une convention collective, vous devez être syndiqué. En France, on a effectivement l'immense majorité des Français qui bénéficient d'une convention collective sans adhérer au syndicat. Mettez en place le système de gants en France, dites aux Français, bah écoutez, si vous voulez bénéficier des conventions collectives, il faut être syndiqué. Vous allez voir comment le chiffre de syndicalisation va exploser. Sauf que nous ne sommes pas dans cette culture syndicale là, nous sommes dans la culture syndicale de conviction et que ça change complètement les choses. Alors pour autant, on a pu être dans le passé, par le passé, beaucoup plus nombreux. Ça c'est vrai, en 68 ou en 45, dans un contexte politique bien précis, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. La syndicalisation, c'est un de nos chevaux de bataille. C'est-à-dire qu'avec mes camarades dans le Val-de-Marne, on passe notre temps à essayer de s'implanter, à faire des parrainages dans les entreprises, etc. Parce qu'on a bien conscience que c'est quelque chose d'extrêmement vital et crucial pour peser. Pour autant, je vous rappelle qu'il y a toute une série de mobilisations que la CGT a menées et avec l'assentiment complet de l'opinion. Je me souviens de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. 70% des Français nous suivaient. Contre la loi El Khomri, 70% des Français étaient d'accord avec nous. Sur les ordonnances, 70% des Français, entre 65 et 70% des Français, étaient opposés aux ordonnances d'Emmanuel Macron. Donc, on pèse lourd dans l'opinion, et il y a effectivement des gens, combien de fois j'ai entendu des salariés me dire, vous savez, à la CGT, moi je suis d'accord avec vous, je vous suis les gars. C'est pas facile de me syndiquer dans mon entreprise, parce que j'aurais bien peur que mon patron, il met dans le collimateur. Voilà. C'est contre ça qu'on se bagarre. Parce que effectivement, se syndiquer à la CGT, c'est pas neutre aux yeux de bon nombre d'employeurs.
Est-ce que vous êtes représenté dans les universités ?
Alors on a l'affaire que CGT, où on syndique les enseignants du supérieur. En revanche, la CGT n'a jamais, par choix, syndiqué les étudiants. Voilà, elle a jamais effectivement développé un syndicalisme à proprement parler vers les étudiants. On peut syndiquer les étudiants travailleurs, bien évidemment, mais on a toujours fait ce choix-là de laisser ça aux organisations étudiantes.
Benjamin Amar, pourquoi avez-vous choisi la CGT plus qu'un autre syndicat?
Alors, figurez-vous que moi, la première année de quand j'ai été enseignant, j'étais dans un autre syndicat. Et j'y ai vu des pratiques de connivence qui ne m'allaient pas, où on pouvait, j'étais allé les voir parce que j'avais eu un problème et on m'y avait fait la même réponse que le rectorat. Et à partir de ce moment-là, ça m'est venu comme une évidence. C'est-à-dire que, alors que justement, moi je viens pas d'une famille militante, ça m'est venu comme une évidence, c'est-à-dire que le syndicalisme de la CGT tel que je me l'imaginais et tel qu'il est en réalité, c'est-à-dire un syndicalisme très organisé, sans compromission, qui vous accueille à bras ouverts en disant que les droits des salariés, on ne transige pas avec ça. Voilà ce qui m'a fait aller à la CGT. Et alors que je ne venais pas du tout d'une culture militante, mes parents ne sont pas du tout cégétistes, j'y ai trouvé exactement ce que je m'attendais à y trouver.
Vous êtes un enseignant, vous êtes un professeur d'histoire, géographie, dans un lycée, de Créteil, et depuis très très longtemps. Pourquoi les lycéens ne s'y mettent pas eux aussi? Pourquoi les lycéens ne suivent pas tous ces mouvements? Comment comprendre ça?
Alors oui, c'est une excellente question. En l'occurrence, je pense que là, on est... Alors d'abord, il y a plusieurs choses. On est aussi au début du mandat d'Emmanuel Macron et il y a encore des catégories de population qui sont peut-être encore dans l'attentisme. Ensuite, c'est une réforme. Je pense que le gouvernement a été assez malin dans la manière de faire.
La réforme Heureux, vous voulez dire?
La réforme
des universités.
Mais aussi,
ils sont les premiers à être concernés quand même.
Alors oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a eu aussi toute cette espèce... Je sens bien, chez mes élèves de terminale notamment, une certaine attente. Ils ont été au courant du fiasco complet du tirage au sort de l'année dernière avec APB, et personne ne regrettait vraiment APB. Donc là, il y a un peu l'idée de « Ah, mais on va voir comment ça va être cette année, etc. » Sauf que je peux vous dire qu'on a déjà fait, effectivement, là, on a eu là, les saisies sur Parcoursup, et qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient, pantois, qui étaient déboussolés, désorientés. Il a fallu qu'on fasse des sessions d'urgence au lycée parce qu'il y avait des élèves qui allaient se retrouver en très grande difficulté sur leur orientation post-bac. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une sorte d'écran de fumée, mais qui pour les lycéens encore, rien n'est joué. Vous savez, là, on est au mois de mai, mois de juin, rien n'est joué et il suffit de rien pour que... C'est ça qui est incroyable.
Vous ne faites pas de prosélytisme, rassurez-nous quand même dans vos cours.
Ça, je ne l'ai jamais fait.
Vous maintenez bien à distance vos fonctions de militant syndical.
Mes notations administratives en tant qu'enseignant sont excellentes. Voilà. Donc, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut jamais savoir comment les mobilisations lycéennes, elles éclatent. Il suffit d'un rien, et pour le moment, ce rien n'est pas encore arrivé.
Au ce moment, au lycée de Créteil, tout va bien.
Ah ben, en tout cas, tout va toujours très bien. Effectivement, non, là, pour le moment, il n'y a pas de mobilisation. Ce que je regrette, je le souhaiterais vivre.
Oui, on entend bien dans vos propos. Restez avec nous, il est 8h45 sur France Culture, Benjamin Hamard. Et à 8h45, c'est l'heure de l'idée culture. L'idée culture, je le rappelle à chaque invité qui s'assied dans ce studio chaque samedi, c'est une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Il va sûrement vous intéresser, Benjamin Hamard, puisque c'est un historien, Mélanie.
C'est un grand historien, Alain Corbin, historien du 19e siècle, précurseur et grand spécialiste de l'histoire des sensibilités. Il a beaucoup écrit sur l'histoire de l'odorat, des paysages, du désir. Son dernier ouvrage vient de paraître, ça s'appelle La fraîcheur de l'herbe, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours, et c'est chez Fayard. Et ce matin, eh bien, pour une fois, on parle d'architecture du XIIIe siècle.
Alain Corbin.
Alors, quelle est l'œuvre d'art qui m'a concerné depuis, au fond, l'enfance, et qui me concerne toujours? C'est la nef de la cathédrale d'Amiens. C'est assez connu, hein, c'est un peu banal ce que je dis là. Mais tous ceux qui ont vécu, qui ne la connaissaient pas, ou très peu, et qui sont entrés dans la cathédrale d'Amiens, ont été saisis. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'exception, c'est un saisissement, c'est une élévation, on est aspiré par la voûte et par la longueur aussi de cette nef. Et on peut se demander quelle était l'émotion des gens du Moyen-Âge, par exemple, face à cette même œuvre. C'était pas le même type de saisissement, d'aspiration dont j'ai parlé. Non, je crois que les gens de l'époque pensaient aussi à la Jérusalem céleste. C'était l'image du ciel, en fait. Alors, j'ai parlé de saisissement et d'élévation, mais il y a aussi la luminosité. La luminosité qui vient de toutes les fenêtres hautes et qui est le ciel aussi.
Par quoi est-ce qu'on est saisi précisément? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu?
Alors, évidemment, c'est à Amiens. C'est donc la Picardie. Il faut dire que, à mon sens, ces grandes cathédrales gothiques qui saisissent sont de l'Île-de-France, de la Picardie, de la Normandie. Elle se dresse en plein dans la ville et on est tout de suite saisi par la vue de cette nef. J'avais un ami qui disait qu'il voulait se marier et que le jour où il se marierait, il voudrait se marier dans la cathédrale d'Amiens pour que le cortège nuptial remonte toute cette nef. Donc, c'est un peu amusant, mais ça indique que cette émotion était partagée. C'est du grandiose aussi. Et de vous à moi, je suis infiniment moins saisi par Notre-Dame de Paris. Ça n'a pas, pour moi, de comparaison. Et puis, c'est une des cathédrales du XIIIe, c'est-à-dire de l'époque de l'apogée du gothique. Après, le XIVe, il y aura des flamèches, le flamboyant, etc. C'est peut-être moins pur. D'autre part, c'est à ce moment que se prépare la fin de ce grand moment du Moyen-Âge pour Jacques Le Goff, qui est marqué par deux événements, la mort de Saint-Louis et l'effondrement de la cathédrale de Beauvais, de Beauvais. Donc la cathédrale d'Amiens, elle résiste à ça. Elle est vraiment au cœur de l'histoire du gothique. Quand on rentre dedans, encore une fois, je vous dis, évidemment, comme dans toutes ces cathédrales, c'est le silence aussi qui frappe, parce que ce sont des blocs de silence, les cathédrales, bien sûr. Ce ne sont pas particulièrement les vitraux, ce ne sont pas les plus beaux, ce sont ceux de Chartres peut-être qui seraient les plus beaux, mais je vous dis, c'est somatique. C'est le corps tout entier est saisi comme si on allait décoller. Voilà. Hein. Et donc, la cathédrale d'Amiens est le prototype le plus achevé de cette architecture qui accompagne l'élévation de la célébration de la messe. Voilà. Enfin, ça ne concerne qu'évidemment les catholiques qui ont éprouvé cela. Hein. Pour ma part aussi, il y a le fait que j'ai été élevé en Basse-Normandie et que j'ai beaucoup visité toutes les cathédrales picardes Île-de-France-Normandie. Hein. Donc je suis très familier de ça. Alors peut-être que ça joue dans ce que je viens de vous dire. Et j'ai été très vite habitué à sentir, à ressentir le gothique. Mais encore une fois, c'est la nef d'Amiens qui surpasse tout pour moi.
Ben, je me tourne vers vous, Benjamin Amar, puisque vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous devez connaître au moins le nom d'Alain Corbin, sinon les œuvres,
ah
très
non,
nombreuses.
Je connais très très bien, puisque moi j'ai fait en plus de l'histoire contemporaine. Et effectivement, les ouvrages d'Alain Corbin ont émaillé mon parcours universitaire. C'est quelqu'un qui écrit des bouquins fantastiques. Moi, je me souviens avoir été marqué en particulier par deux ouvrages, Le Miasme et la Jonquille.
Sur l'odorat.
Sur l'odorat et Le Village des Cannibales, sur le massacre de Haute-Fée. Voilà, c'est cette histoire, cette manière d'appréhender effectivement l'histoire des sensations, l'histoire, c'est quelqu'un d'assez remarquable. Et en plus, je partage son opinion sur la nef de la cathédrale d'Amiens. C'est en plus, c'est une cathédrale qui a été miraculeusement complètement épargnée par la Révolution, par les deux guerres mondiales, et vous avez un pavage octogonal, effectivement, avec un labyrinthe, que les pénitents au Moyen-Âge devaient arpenter à genoux. Voilà, donc c'est effectivement un lieu, et je partage également l'idée que c'est une cathédrale plus majestueuse que Notre-Dame. Je suis assez d'accord avec ça.
Voilà, Alain Corbin, au micro de Mélanie Chalandon. On rappelle juste le titre de son dernier ouvrage, parce que on l'avait laissé avec une histoire du silence. Il a choisi toujours des thèmes absolument extraordinaires et uniques. Et là, il nous fait une fraîcheur de l'herbe,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est une histoire de l'herbe dans la pensée, dans les poèmes de Victor Hugo, par exemple, de Chateaubriand. Donc ça s'appelle « La fraîcheur de l'herbe, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours » et c'est chez Fayard, ça vient de paraître.
Voilà, on vous l'offrira, tiens,
avec
Benjamin
plaisir.
Amar. On vous l'offrira. Vient de s'asseoir une autre fraîcheur. C'est Jackie Durand. Bonjour Jackie Durand.
Bonjour Caroline.
Chroniqueur culinaire de Libération et notre confrère culinaire ici. Jackie Durand, c'est l'heure de vos mitonnages. Il est 8h52 sur France Culture. Et quand je vous ai demandé de quoi vous alliez nous parler aujourd'hui, vous m'avez répondu, Jackie, que vous alliez parler de la cuisine au travail. Mais en fait, vous allez nous parler d'une drôle de boîte d'abord.
Oui, c'est une boîte en tôle émaillée avec un couvercle et une anse. C'est la boîte à fricots. Dit autrement, on appelle ça aujourd'hui la lunchbox. Le fricot, c'est le ragoût, la viande et les légumes mélangés. C'est rarement au menu des étoilés, quoique quelquefois, on préférerait ça à franchement des plats qui minaudent. Le fricot, c'est le fait maison que l'on emporte dans sa boîte pour le faire réchauffer au bureau, sur l'établi, sur le chantier. Aujourd'hui, la boîte à fricot, elle racole encore dans certaines drogueries, cacailleries de quartier, fait partie de cette nostalgie marketée qui vous fourre des recettes de grand-mère. Car il faut bien le reconnaître, la boîte à fricot, elle a pris un sacré coup de vieux depuis le plastique et le micro-ondes. Mais bon, quand elle nous fait encore de l'œil, au rayon c'était mieux avant, c'est l'occasion de revenir sur l'idée de la bectance au boulot, ce qu'elle dit de nos points communs, de nos différences, de nos échanges, de l'évolution. Tiens, prenez mon grand-père, il était cheminot. C'est un métier d'actualité. Il était à la voie, comme on disait, des gars qui posaient des rails et des traverses de bois. Un travail dur, par tous les temps. Il cassait la croûte avec son fricot réchauffé dans une petite cabane le long de la voie ferrée. Il ramenait aussi de drôles de choses à goûter à la maison. Comme ce fruit pointu dans lequel ma mère enfant mordit en toute innocence. Le piment. Le piment des cheminots venu du pourtour de la Méditerranée. Ma grand-mère, elle était garde-barrière. Se mettait au garde-à-vous avec le drapeau tricolore quand passait le train présidentiel. Et puis, parfois, on lui jetait du luxueux train bleu, des couverts en argent et des nourritures enveloppées dans des serviettes. Une guerre plus tard, mon père n'emmenait déjà plus sa boîte à fricots à l'usine. Mais il y avait des temps d'alimentation bien définis qui rythmaient son travail. À 9h, il y avait la pause casse-croûte, avec un morceau de pain, une boîte de sardines, un peu de vin sucré. Il fallait du vin sucré pour se remettre en forme. Mais le midi, pas question de déjeuner à la cantine. Ça aurait été franchement trahir la cuisine familiale. Mais surtout, il y avait le goûter. On disait nous faire 4 heures. Le goûter, c'était les ouvriers qui mangeaient du riz au lait, du flan maison, des fruits de saison. Il y avait dans cette pause sucrée l'idée de renouer avec une certaine douceur après la dureté de l'atelier.
Et aujourd'hui, comment mange-t-on ? Que mange-t-on au travail ?
Eh bien, on mange de façon, dirais-je, extrêmement variée entre les adeptes de la cantine, du traiteur asiatique, du restaurant de quartier, de la livraison au bureau, des snackings de toutes sortes. Mais au-delà de cette individualisation des repas que l'on a déjà évoqué ici, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de mangeuses et de mangeurs aiment à se retrouver autour d'une même table avec leurs différents frichetis. Tiens, Alibé. On a une ancienne table, ça devait être une table de drapier, tellement elle est longue, dédiée à la conférence de rédaction un temps, et qui tient lieu aujourd'hui de réfectoire. En fait, on a besoin d'un endroit à soi pour manger ensemble. C'est pour cela sans doute que les locaux de la restauration collective, quelquefois en sous-sol, mal éclairés, très anonymes, font fuir les mangeurs et les mangeuses, plus que les menus proposés. D'ailleurs, il y a un gros malentendu entre la restauration collective et la restauration tout court. Trop souvent, on dénonce les surgelés, les plats industriels dans les cantines, alors que les cartes interminables de certains bistrots trahissent le recours à cette cuisine d'assemblage. Les mêmes ingrédients, mais une autre mise en scène. Alors, pour en revenir à notre fricot, on pourrait faire ce week-end, par exemple, un barboton de pommes de terre. Barboton de pommes de terre, c'est une très jolie recette qu'on doit à Paul Bocuse. Elle était parue chez Flammarion en 82. Elle est extrêmement simple et ça ferait un fricot vraiment fameux. Il vous faut 1 kg de pommes de terre, 200 g d'oignons, 300 g de lard salé, 80 g de beurre, 4 louches de bouillon ou d'eau. Vous pouvez penser bien sûr au boulon en tablette, un bouquet garni, thym, persil, laurier, une gousse d'ail, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Vous coupez le lard en gros dés après avoir ôté la couenne. Vous épluchez les oignons, vous les émincez, vous épluchez les pommes de terre, vous les coupez en cubes, vous épluchez et vous hachez la gousse d'ail. Dans une cocotte, vous mettez le lard que vous faites suer pour qu'il rende son gras, vous ajoutez les oignons que vous faites blondir. Au bout de 6 à 7 minutes, vous ajoutez le bouillon ou l'eau, il faut que ça soit chaud, puis les pommes de terre, le bouquet garni, vous salez avec modération à cause du lard, vous poivrez, vous râpez un peu de noix de muscade, vous laissez cuire une demi-heure, vous arrêtez le feu, vous ajoutez le beurre, vous couvrez, vous laissez reposer 10 minutes avant de servir, et franchement, ça va faire des jaloux au boulot.
Et j'ajoute que vous pouvez réécouter en boucle cette chronique, bien sûr, pour noter la recette finale de Jackie Durand, mais que nous la mettrons par écrit sur notre site internet. Je vous voyais souriant, écoutant attentivement cette chronique culinaire, salivé peut-être même,
oui,
Benjamin Amar, devant le fricot présenté par Jackie Durand.
C'est pas bien effectivement d'écrire des chroniques qui font autant saliver, c'est-à-dire que là il est 9h du matin, j'ai envie de me faire un bœuf bourguignon, donc là c'est un petit
Ah bah
souci.
Voilà, il a trouvé son compagnon, Jackie. Ah. À 9h du matin, quand même, rares sont ceux qui ont envie d'un bœuf bourguignon, mais Jackie ne cesse de nous parler de viande à 9h du matin. Dans les locaux de la CGT du Val-de-Marne, Benjamin Amar, on mange, on discute stratégie autour d'une table, comme le disait Jackie.
Oui, oui, tout à fait. Alors, heureusement, d'ailleurs, que j'ai mes journées, parce que moi, je suis toujours en activité, donc il y a des moments où je suis au lycée, des moments où je suis au syndicat. Et heureusement que j'ai des moments au syndicat où, effectivement, on essaie de manger de manière conviviale, comme vous l'avez décrit, si bien décrit. Au lycée, malheureusement, j'ai plutôt tendance à être devant mon ordinateur et à manger en travaillant, ce qui est une chose regrettable, parce que je suis d'accord, le repas, ça devrait être avant tout un moment de convivialité et de discussion, d'échange. Alors, je l'ai plus au syndicat que sur mon lieu de travail.
Jackie ?
Je vais faire un petit peu de pub pour un ancien de la CGT qui a mené un combat très long à Dijon et qui, avec ses indemnités, a ouvert un petit restaurant qui est fameux. Et on refait le monde et c'est très bon. Vous trouverez sans doute son adresse sur le net.
En fait, c'était une transition vers le choix musical de notre invité, Working Class Hero, John Lennon.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Un petit mot peut-être sur ce choix musical.
Ah, je trouve que c'est une chanson magnifique. C'est une chanson de John Lennon justement qui évoque le refus de l'aliénation, le refus du renoncement, le refus de courber les chines devant les puissants. Et c'est une chanson que moi j'ai entendue pour la première fois à mon premier congrès CGT où on rendait hommage aux camarades morts avec cette chanson comme une sorte d'épitaphe. Et je trouve que c'est une chanson magnifique.
Working class hero is something to be.
Merci beaucoup à vous d'être venu, Benjamin Amar. Bon week-end à tous.